conférence numéro 26.
Il importe de noter qu'au moment où cette conférence a été prononcée, le mouvement pentecôtiste avait pris naissance dans certaines communautés noires protestantes des États-Unis, mais qu'il ne s'était pas étendu à l'Église romaine sous le nom qu'il a revêtu depuis ce moment de communauté charismatique ou de mouvement du renouveau.
Alors nous en sommes au chapitre 14 de l'Épître aux Corinthiens. Ce chapitre 14, est-ce que je vous l'ai lu cette année ? Est-ce que je vous l'ai lu ? Rechercher la charité, aspirer cependant aux dons spirituels ?
Non.
Bon, alors je vous lis le chapitre 14 en entier, pour commencer. Avec des petites remarques de temps en temps pour faire passer la sauce. Parce que je sais que c'est pas toujours... toujours endormant la lecture. Rechercher la charité, conclusion du chapitre 13 en somme, aspirer tout de même aux dons spirituels, c'est pas interdit, mais alors tant qu'à aspirer à des dons spirituels, le principal désir que je vous autorise à avoir, moi, Paul, en dehors de la charité, qui bien entendu est la perle précieuse elle-même, eh bien le seul désir que j'encourage, c'est la prophétie. Aspirez à être prophète. Et ça s'oppose alors à celui qui parle en langue ou le glossolal. Alors là, nous allons en parler longuement, rassurez-vous. Je vous donne une idée rapide pour que vous puissiez comprendre le texte. Celui qui parle en langue, c'est celui qui dit des choses qu'il ne comprend pas lui-même, généralement. Et que ceux qui l'entendent ne comprennent pas forcément. Nous entrerons dans les détails tout à l'heure. Alors celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes qui n'y comprennent pas grand-chose, mais à Dieu. Personne, en effet, ne le comprend. Mais en esprit, il dit des choses mystérieuses, incompréhensibles, obscures. Au contraire, celui qui prophétise parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte, il les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie la communauté. Moi, je veux bien que vous parliez tous en langue, mais j'aimerais mieux que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier, celui qui parle en langue, ne sache interpréter ce qu'il dit, traduire, de façon que la communauté en tire profit. Enfin, voyons, si je venais maintenant chez vous, mes frères, en parlant en langue, qu'est-ce que ça vous servirait à quoi, hein ? Je vous le demande. Ce qui est utile pour vous, c'est que je vous parle en révélation, en science, en prophétie ou en doctrine. Tout de même, regardez les choses inanimées. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est clair et distinct, sans être cartésien. C'est une traduction très libre de ma part, hein, je vous préviens. C'est pas. Enfin, disons, c'est ce qui est distinct. Si une flûte ou une cithare, oui, c'est ça, se met à proférer des sons dans le genre de la musique concrète, n'est-ce pas ? Pas très distinct, si elles ne mettent pas une distinction entre les notes, eh bien on ne comprendra pas ce qui est joué sur la flûte ou sur la cithare. Si la trompette donne un son confus, est-ce que vous vous préparerez au combat ? Car il est entendu que la trompette c'est fait pour préparer au combat. Eh bien, il en va de même pour vous avec la langue, si vous ne parlez pas clairement, eh bien, comment comprendra-t-on ce que vous exprimez ? Vous ne faites que parler en l'air. Quel que soit le nombre des genres de voix dans le monde, aucune n'est inarticulée. Donc si je ne connais pas la valeur du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera pour moi un barbare. Donc vous aussi, puisque vous êtes avide d'inspiration, eh bien que ce soit pour l'édification de la communauté que vous cherchiez à être inspiré en abondance. Voilà pourquoi celui qui parle en langue doit demander à Dieu de pouvoir traduire. Car si je prie en langue, c'est mon esprit qui prie, mais mon intelligence, alors là, une distinction sur laquelle il faudra revenir, ce que Paul appelle je crois que c'est le pneuma, c'est-à-dire la partie la plus profonde et la plus mystérieuse de l'âme, et l'intelligence, la raison, n'en retire aucun fruit. Que faire donc ? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence claire et distincte. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Parce que si tu prononces par l'esprit des paroles de bénédiction, comment veux-tu que celui qui n'est pas initié réponde « Amen » à ton action de grâce, étant donné qu'il ne sait pas ce que tu dis, hein ? De ton côté, tu fais peut-être une très belle action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu, d'ailleurs je parle en langue plus que vous tous. Voilà. Mais dans la communauté, quand je suis avec vous, quand je suis tout seul, j'y vais, ça y va. Hein? Bon, mais quand je suis avec vous, eh bien je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que des milliers de paroles en langue. Allons mes frères, devenez pas des enfants au point de vue du jugement, au point de vue de la malice. D'accord, soyez des enfants. Hein? Mais pour le jugement, non, devenez des hommes mûrs. Il est écrit dans la loi... Je parlerai à ce peuple par d'autres langues et par d'autres lèvres. Et même comme ça, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Fin de citation, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, les langues, ça sert de signe, non pas pour les croyants, mais pour les incroyants, pour les infidèles. C'est pour eux que Dieu utilise le parler en langue. Et tout ça est très obscur, hein. J'imagine que vous ne devez pas très bien comprendre et que vous avez peut-être l'impression que Saint Paul lui-même en ce moment parle plutôt en langue qu'en prophétie. Alors on va essayer d'interpréter tout à l'heure, n'est-ce pas ça? Un peu de patience. C'est un texte assez difficile, je reconnais, mais passionnant, plus passionnant que je ne m'en doutais à première vue. Bon, donc, les langues, qu'est-ce qui... Les commentaires par là. Les langues doivent servir de signe. Non pour ceux qui croient, mais pour les infidèles. Tandis que la prophétie n'est pas pour les infidèles, elle est pour les croyants. Donc quand l'église entière se trouve réunie en un même lieu, et que tous se mettent à parler en langue, et puis qu'il entre là-dedans des incroyants et des gens pas initiés, vous ne croyez pas qu'ils vont vous prendre pour des fous? Enfin quand même. Au contraire, si tous prophétisent, et s'il entre un incroyant ou quelqu'un qui n'est pas initié, alors, admirez ce qu'il va dire. À ce moment-là, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Et alors, tombant sur sa face, il adorera Dieu, proclamant que réellement Dieu est parmi vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, frère? Conclusion pratique. Bon, ben, quand vous vous assemblez, il y en a qui sort un psaume de son cœur, l'autre une doctrine, l'autre une révélation, l'autre un discours en langue, l'autre une interprétation. Eh bien, que tout cela soit pour édifier. Alors, s'il y en a qui parlent en langue, 2 ou 3, hein, pas plus, et puis chacun à son tour. Hein. Et puis qu'il y en ait un qui interprète, voilà, comme ça, ça édifiera. S'il n'y a pas d'interprète, eh bien, que celui qui parle en langue se taise dans la communauté, voilà. Hein, et qu'il se parle à lui-même et à Dieu. Quant aux prophètes, 2 ou 3 à prendre la parole, et les autres exerceront le discernement. Maintenant, s'il y en a un autre qui se met à recevoir une révélation, que le premier se taise. Parce que vous pouvez tous prophétiser les uns après les autres, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Car les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole, mais qu'elles soient soumises, comme le dit la loi elle-même. Ça, évidemment, ce sera à commenter, non pas parce que c'est obscur, c'est extrêmement clair, mais... mais parce que ça peut paraître plus discutable, nous verrons tout ça. Que si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent à la maison leur propre mari. Car il est honteux pour une femme de prendre la parole dans une assemblée. Est-ce que la parole de Dieu serait sortie de chez vous par hasard? Ou est-ce que c'est à vous seul qu'elle serait parvenue? Si quelqu'un pense être prophète ou inspiré, eh bien qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un ignore ce que je vous écris, ou plutôt si quelqu'un ignore que ce que je vous écris, que tout ce que je vous écris dans ce chapitre est un commandement du Seigneur, eh bien c'est que lui-même est ignoré de Dieu. Alors mes frères, aspirez à prophétiser, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe décemment et avec ordre. Voilà, eh bien nous avons, vous vous en doutez, du pain sur la planche avec tout ça. Alors, la première chose que je dois faire, c'est de chercher les lunettes, c'est de vous dire un petit mot sur ces affaires de la glossolalie. Ce qui paraît le plus étrange dans ce chapitre, à moi d'abord, à vous je suppose ensuite, c'est que Paul s'évertue et semble s'inquiéter sérieusement, enfin, d'un phénomène dont nous n'avons pas la plus petite idée, n'est-ce pas ? De sorte que nous sommes tentés de dire, oh ben, ça ne nous concerne plus du tout, cette affaire-là, ça n'offre aucun intérêt pour nous. Le commentateur dit d'ailleurs qu'en effet, la glossolalie a disparu de l'Église assez rapidement, et puis qu'on n'a plus jamais entendu parler de cette affaire-là. La prophétie, c'est une autre histoire. Il y aurait beaucoup à dire sur la prophétie, et il y aura beaucoup à dire, car d'un côté, on ne veut plus de prophètes, et d'un autre côté, on en veut plus que jamais, mais justement, n'a-t-on pas corrompu la notion même de prophétie? C'est une question extrêmement grave dont nous reparlerons. Mais je veux tout de même vous dire deux mots de la glossolalie, parce que, malgré les apparences, un plan extrêmement précis et limité, mais aussi un plan beaucoup plus vaste et plus profond en même temps, la glossolalie continue de travailler les gens. Un plan précis et limité, d'abord. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Je connais un ménage, un foyer chrétien, qui n'est pas dans le département, donc ne cherchez pas, et qui a fait la connaissance d'un protestant zélé, comme il y en a, et un peu prosélyte, quoi, vous voyez. Ils ont eu de très longues discussions, et ce protestant leur a passé un livre, petit livre, qu'ils m'ont passé aussi. Et là, dans l'histoire que je vous raconte, intervient un fait important dû à mon tempérament et dont il faut que vous vous soyez avertis. J'ai lu le livre, je l'ai parcouru, je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. J'aurais bien voulu l'avoir maintenant. Je regrette un peu comme la cigale mon imprévoyance, voyez. Toujours est-il que c'était un livre extrêmement curieux. Ça s'appelait quelque chose, le titre à peu près, enfin, « Et ils parlent en langue ». Et alors, ça doit être traduit de l'américain. Il s'agit d'un journaliste américain qui, à l'occasion d'une opération, je ne sais pas quoi, enfin, s'est mis à connaître des communautés des États-Unis. Est-ce à New York, est-ce à Chicago, je ne sais rien du tout, par là, quoi. Hein. Des communautés où on se réunit encore aujourd'hui et où on pratique encore aujourd'hui la glossolalie. Alors, telle qu'elle est décrite dans ce livre, qu'est-ce que c'est que la glossolalie? Telle qu'elle est décrite dans ce livre, ça consiste, de la part d'un individu, à voir, à sentir, se former en lui des mots articulés, hein, qu'il ne comprend pas, et qui se révèlent par la suite être prononcés dans une langue qu'il ne connaît pas. Mais dans le livre en question, il s'agit toujours d'une langue qui existe, l'arabe, tout ce que vous voudrez, vous voyez. Alors, le glossolal, enfin le bonhomme à qui ça arrive, hein, bien, se met à chanter la louange de Dieu avec des mots qui ne sont pas compréhensibles pour lui en général, qui ne sont pas non plus compréhensibles pour les autres, sauf s'il existe dans l'assemblée qui écoute, ben, quelqu'un qui parle cette langue. Et alors évidemment, ça nous rappelle la Pentecôte. Vous voyez, j'avais cru jusqu'à présent, je voulais enseigner même, je pense, que les apôtres qui se sont mis à parler en langue le jour de la Pentecôte comprenaient ce qu'ils disaient. À la faveur de ce petit livre et de ce chapitre 14, je m'aperçois que ce n'est pas obligatoire. Vous voyez, la glossolalie, quand elle est divine, c'est toujours, presque toujours une louange, n'est-ce pas? C'est Dieu est grand, Dieu est beau, loué soit Dieu, à lui haute louange et gloire, haute gloire et louange éternelle. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est rien d'autre. Son écrit de joie, son écrit d'admiration, son écrit de ferveur. Et je suppose que les apôtres ont poussé des cris de ce genre. Il n'est pas obligatoire qu'ils aient compris ce qu'ils disaient. Mais évidemment, les étrangers, les hommes pieux venus à Jérusalem adorer et qui n'avaient pas l'habitude d'entendre parler leur langue dans les synagogues, ont dû être extrêmement surpris si ce phénomène s'est produit. Sorte que de ce point de vue-là, il avait quand même une valeur édificatrice parce qu'il y avait un interprète, et l'interprète c'était tout simplement celui qui connaissait la langue en question. Alors, existe-t-il des cas de glossolalie authentique, c'est-à-dire inspirée de Dieu, où il n'y a pas de langue humainement assignable, même peut-être des sons inarticulés, comme le laisse entendre Paul à un moment? J'en sais rien, moi. Je ne peux pas vous garantir. Mais j'admets volontiers que ce phénomène a été celui de la Pentecôte. J'admets qu'il se soit prolongé chez les Corinthiens, évidemment, je suppose, puisqu'il insiste tellement là-dessus, c'est que ça devait exister. Et j'admets que ça peut se prolonger encore dans certains milieux, et alors des milieux qui ressemblent un peu aux Corinthiens. Vous voyez, c'est-à-dire des milieux profondément déshérités par la faute du monde occidental, par la faute du monde capitaliste, qui n'ont pas reçu l'éducation chrétienne correcte. En monde protestant d'ailleurs, ça n'est jamais tout à fait l'éducation chrétienne correcte. Et alors Dieu, qui a pitié de tout le monde, s'adapte, je crois, à chacun. Et pourquoi ne donnerait-il pas à ces braves gens le sentiment qu'il est avec eux, en leur donnant des dons qui sont finalement grossiers? Enfin, Paul le dit, il dit, écoutez, ça va pas loin cette affaire-là, c'est bien ça. Ça lance le pneuma, ça lance l'âme, hein, ça lance la partie de notre être qui est tout de même la plus profonde et qui a envie d'adorer Dieu. Ça donne une espèce d'exaltation, d'enthousiasme. Mais enfin, ça n'est pas très instructif. C'est à portée de main, enfin des gens les plus simples, c'est pour ça que Dieu aime peut-être, ne refuse pas de donner ça aux simples, mais non seulement simples parce qu'ils sont, ils ont un cœur d'enfant, ils ont une simplicité sociale, si vous voulez, une certaine pauvreté sociale, bienheureux les pauvres en esprit, mais simples aussi sous le rapport du jugement. Et alors là, Paul leur dit, non, faut pas rester comme ça, vous voyez, ça marche pas, ne vous autorisez pas de la béatitude des pauvres en esprit pour ne pas chercher à réfléchir, à ne pas faire marcher votre raison, votre jugement, votre discernement. Et alors, là, si vous retenez ça comme étant l'essentiel de l'enseignement de Paul dans cette affaire-là, de cette préférence qu'il donne à la prophétie intelligible et susceptible d'être... susceptible d'être critiquée. Vous voyez ? La prophétie, c'est quelque chose qui, tout en étant très surnaturel peut-être, accepte la critique, accepte le crible, et le crible peut-être d'une autre prophétie. C'est pour ça qu'il a cette parole décisive, extrêmement profonde, et qui définit toute l'Église, et sans laquelle on ne peut rien comprendre, ni à ce qu'est la hiérarchie, ni à ce qu'est le peuple, ni à ce qu'est la vie du peuple chrétien, et à l'équilibre aussi délicat entre la hiérarchie qui freine les initiatives, et puis l'esprit prophétique qui se lance dans les initiatives. Ce qui définit l'Église plus profondément que tout ça, c'est l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça, c'est ça qui est capital. Voyez. Le grand danger de tout prophète, qu'il soit authentique ou qu'il ne soit pas authentique, c'est que, ayant reçu une lumière divine, il n'écoute plus personne. Il n'écoute plus personne, d'abord il n'écoute pas d'autres prophéties que les siennes, ça n'a pas d'intérêt, c'est de la petite bière, parce que ce qu'on lui dit du dehors ne le touche pas, ne le frappe pas, ne l'enthousiasme pas avec la même puissance que ce qu'il a découvert lui-même par une révélation intérieure, alors il a tendance à écarter. Et puis, il n'accepte pas en plus que ce soit critiqué, qu'on lui dise, mais dites donc, mais faites attention, ça c'est ce que vous dites est vrai, mais il y a aussi ça. Et comment est-ce que ça s'arrange les deux? Ah ben, il faut réfléchir, il faut chercher, il faut creuser, il faut être humble, il faut se soumettre à des définitions, il y a des précisions, il y a des dogmes, en fin de compte. C'est tout le travail de discernement de l'Église. Et vous voyez que c'est tout ce travail de discernement est contenu dans cette humilité par laquelle l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Bon, alors ça c'est possible, à condition que l'esprit des prophètes soit humble, et je vous répète, s'il n'est pas humble, c'est la catastrophe que la prophétie soit authentique ou pas. D'ailleurs, c'est pas compliqué, s'il n'est pas humble, la prophétie authentique va devenir pas authentique. Exemple, Tertullien. C'est un des plus grands exemples, les plus terribles de l'histoire de l'Église. C'est un père de l'Église, et on l'utilise encore comme père de l'Église. Et ses écrits font autorité, puis il y a un moment où il a déraillé. Et où il est devenu un hérétique. Et très dangereux. Il y a des plus dangereux qui soient. Et cependant, maintenant encore, on utilise les écrits de Tertullien comme inspirés de Dieu. La partie, évidemment, où il n'a pas déraillé, bien sûr. Parce que dans son cas, c'est très net, c'est très sensible, il y a une coupure. Bon, alors, Donc la prophétie, à condition qu'on soit humble, eh bien on peut discuter, on peut s'expliquer, on peut confronter, on peut... Il y a de la nourriture pour le jugement, pour la raison éclairée par la foi, la raison soumise à la foi, mais enfin tout de même la raison peut fonctionner. Tandis que la glossolalie, il n'y a pas matière à... Vous comprenez, l'individu qui glossolale, eh bien, il fait de mal à personne. À première vue, il fait de mal à personne. Personne ne peut l'embêter non plus. Ça, il est dans sa petite tour d'ivoire. C'est un peu la schizophrénie du surnaturel. Vous voyez, la glossolalie. Tout au moins, ça peut favoriser ça. Bon, et alors j'en arrive... Quand on réfléchit à cette remarque de Paul sur la nécessité d'être édifié non seulement quand on profondeur ineffable de l'âme, mais aussi quant à ce qui est exprimable, quant à ce qui peut se préciser, alors on a une lueur étrange sur des choses très étranges et qui sont en même temps très modernes. Qui sont modernes, mais qui sont permanentes dans l'histoire de l'esprit humain, qui peut-être avaient un peu disparu jusqu'au XXe siècle de l'horizon de l'Occident chrétien, précisément sous l'influence de l'Église. Mais laissons l'Église de côté, examinons tous les peuples, les civilisations les plus élémentaires, enfin celles qu'on découvre encore aujourd'hui en Afrique, en Asie... je glossolale, vous voyez. En Amérique du Sud, du côté de l'Orénoque, par là, bon. Ou en Afrique, enfin les civilisations tout à fait primitives. Bon, prenez ces civilisations-là. Prenez la civilisation grecque, qui est un exemple saisissant, et puis la civilisation romaine aussi. Enfin, bon. Jamais ces gens-là n'ont vécu sans se nourrir du phénomène que j'appellerais, en gros, quitte à donner des précisions ultérieures, le phénomène de l'inspiration. Vous voyez, une des choses qui les aide à vivre, c'est que de temps en temps, certains individus et quelquefois certaines collectivités sont dans un certain état. Voilà, se mettent dans un certain état. Ça, c'est dans tous les peuples. Ça. Vous voyez. Et la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue si on n'avait pas ça. Quand le père Bonnet parle de la fête, eh bien, je crois qu'à l'horizon, au-delà de la fête, justement, cultivée, peut-être trop cultivée, trop polissée, trop distinguée, trop discrète, je ne parle pas des fêtes orgies, justement, je ne parle pas des fêtes qui dégénèrent, je parle des fêtes tout à fait raisonnables qu'on pouvait avoir dans l'Occident chrétien, eh bien... peut-être quelquefois trop raisonnable, ça c'est une question enfin, sur laquelle il faudra réfléchir ensemble. Je crois qu'elle est très grave. Et, en tout cas, l'instinct de l'homme, c'est d'être empoigné par quelque chose qui le dépasse de temps en temps, et puis de partir en voyage, collectivement de préférence. Mais si on ne peut pas collectivement, alors ce sera peut-être individuellement. Alors ça, c'est fondamental. Notre civilisation, en partie sous l'influence de l'Église, en partie sous l'influence de la science, était en train d'oublier ça, de se débarrasser de ça, de se méfier de tout ça comme étant foncièrement irrationnel et suspect. Or ça, ce phénomène d'inspiration collective plus ou moins hystérique, est en train de prendre une revanche terrible dans notre même civilisation. Vous comprenez, les hippies, le happening, toute cette histoire-là, même aller à l'Olympia en ce moment, enfin la manière dont cette espèce de, je sais pas quoi, moi, comment appeler ça, moi appeler ça comme vous voudrez, enfin cet état second dans lequel la génération actuelle essaie de se mettre, ça répond toujours à ce même besoin-là. Bon, c'est très sommaire ce que je vous dis là, mais ça va loin. Parce que c'est un fait. Alors j'ai ici, je ne vous le lirai pas parce que c'est toujours très dangereux de lire et puis ça endort et puis il y a les lunettes qui... Bon, enfin j'ai ici un dialogue de Platon qui s'appelle le Ion. Bon, il y en a quelques autres où il aborde la question de la poésie. Alors c'est extrêmement impressionnant. Enfin, je tout de même, il dit au fond, le poète c'est quelqu'un qui ne possède pas, il n'agit pas selon un art. Enfin, Platon distingue, Socrate ou Platon distingue très nettement celui qui agit selon un art, c'est-à-dire qui possède la maîtrise de son affaire. Le conducteur de char, par exemple, le coureur de course automobile, n'est-ce pas, bien, agit selon un art. Il faut qu'il apprenne, et c'est à la taille humaine, c'est à la mesure humaine. Bon. Et toutes les choses de ce genre dans la vie humaine sont ainsi. Elles répondent à un art. Mais à le poète, non. Ça paraît très curieux, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de l'art, justement, mais quand on parle de l'art dans la civilisation actuelle, on désigne quelque chose qui, pour Platon, n'est justement plus une technèse, n'est-ce pas? Parce que c'est le même mot, apprenez-le. En grec, le mot techné veut dire art, et le mot art évoque techné. Et je me rappelle le jour de la mobilisation générale en 1939, quand on a dit qu'il était interdit de s'approcher des ouvrages d'art, j'avais jamais entendu, bah moi je croyais que c'était la Joconde, enfin, il ne fallait pas s'approcher de la Joconde, c'était les ponts, c'était les ouvrages techniques. Bon. Eh bien, Platon dit, attention, au fond, le poète c'est quelqu'un qui est empoigné par une muse. La muse, qu'est-ce que c'est? C'est une divinité. Bien. En terre chrétienne et juive, on dira des anges. Ça peut être de bons anges, ça peut être de mauvais anges. Enfin, voilà, on est empoigné par quelqu'un dont on devient l'instrument. Et ce quelqu'un nous donne un certain enthousiasme. Et alors, Platon dit, eh bien, justement, il n'agit pas comme étant maître de ce qu'il fait, comme sachant ce qu'il fait. Et, enfin, pratiquement, il faut se méfier de ces gens-là, quoi. Oui, ça, c'est nettement ce que dit Platon. Pourquoi est-ce qu'il faut se méfier d'eux? Parce que, justement, l'action de la divinité, de la muse, de l'ange, l'ange du bizarre, comme disait Baudelaire, n'est-ce pas? Ou les anges dont parle Rilke, les anges qui obsèdent Proust, enfin, les anges qui obsèdent tous les artistes, c'est un fait. Qu'on appelle ça la muse, ou qu'on, si ça nous amuse, ou qu'on appelle ça... Excusez-moi. Toujours la glossolalie ce soir. Qu'on appelle ça des anges, qu'on appelle ça l'inspiration, qu'on appelle ça... Enfin, appelez ça comme vous voudrez, c'est tout de même ça qui possède les grands artistes. Eh bien, Platon dit, attention, la muse, mais le poète... faudrait que je trouve l'expression exacte, elle l'arrache à la raison. Elle lui enlève la raison, l'usage de la raison. Il suspend l'usage de la raison. C'est pour ça qu'il ne sait plus du tout ce qu'il fait. Et vous noterez que c'est précisément ce que recherchent les hippies, les happenings et tous ces trucs-là. C'est de ne plus être sous le contrôle de la raison. C'est en cela que va constituer pour eux la béatitude. Bon, or, je vais vous faire deux remarques qui sont d'ailleurs étroitement connexes à propos de quelque chose concernant la révélation chrétienne et dont malheureusement vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler. Hélas, c'est bien dommage. C'est que il y a dans la révélation trinitaire trois personnes. Le Père, bon, on sait quelle est l'analogie qui nous aide à comprendre ce que c'est que le Père. Éternel, le Fils, c'est pareil. Bien. Mais le pneuma, le souffle sacré de Dieu, vous le trouvez déjà dans la révélation juive, non pas comme une personne, mais dans la révélation juive, vous avez l'équivalent de l'inspiration. L'inspiration telle que je viens de la définir chez les païens. Et ça s'appelle la roi de Yahvé, en hébreu. C'est-à-dire le souffle de Dieu qui s'abat sur un individu, et puis qui le fait tantôt prophétiser, tantôt parler en langue, tantôt dire des choses qu'il ne comprend pas, et même l'ânesse de Balaam, elle y va. Hein, c'est, là, quand la roi d'Yahvé s'abat sur vous, il n'y a plus qu'à être une feuille morte, n'est-ce pas, qui va de ci, de là, au vent mauvais ou au bon vent. Ici, c'est le bon vent. Vous voyez, c'est le vent de Dieu. On dirait le tonnerre de Dieu. Mais c'est ça. Et les juifs savaient très bien ce que ça voulait dire et ils recherchaient ça. C'est ça qui était intéressant dans la vie. C'est pendant ces moments-là qu'on oublie la mort, qu'on sent qu'on est un peu à l'abri de la mort et au-delà de la mort, comme Proust l'a remarqué. C'est ça qui les intéressait, les juifs. Eh bien, le Saint-Esprit, quand le Christ nous l'a révélé, se situe nettement du côté des êtres inspirateurs, de la muse. C'est la muse des chrétiens. C'est vraiment la muse sacrée, mais la muse transcendantale, au-delà des anges, au-delà de toutes les muses, c'est celui qui inspire. Mais ça, c'est la première remarque. Mais la deuxième remarque, qui est encore plus importante, et qui est l'originalité foncière du christianisme, alors que vous ne trouvez, je crois, nulle part ailleurs, ce serait à examiner, si vous voulez, s'il y en a qui pensent que... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de rois dans l'islam, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en terre chrétienne, le Saint-Esprit nous soulève au-dessus de nous-mêmes. Il nous soulève au-dessus de la vertu, qui correspond dans l'ordre humain, dans l'ordre moral, à l'art, à la techné, dont parle Platon. Vous voyez, le vertueux, c'est celui qui agit à la mesure humaine, à la taille humaine. Il a réussi à être fort, à être juste, à être courageux, à être tempérant, à être tout ce que vous voudrez. Bon, pas à la suite d'efforts, peut-être à la suite de grâce de Dieu, mais en fait tout ça c'est à la mesure humaine. Quand la roi de Dieu, quand l'esprit de Dieu dégringole sur quelqu'un, eh bien il le soulève au-dessus de la mesure humaine, au-dessus de tout ce que la raison humaine pourrait lui suggérer, mais elle n'aliène pas l'exercice de sa raison. Enfin, ça c'est l'originalité unique de cet inspirateur unique qui s'appelle l'esprit du Père et du Fils en terre chrétienne. Il est le seul à nous soulever au-dessus de nous-mêmes. Et nous devons rechercher ça. Ça, c'est évidemment le christianisme du 19e et le jansénisme qui nous a fait complètement oublier cette affaire-là. Que nous devons désirer être hors de nous, mais sans être aliénés. Quant à l'usage de notre raison et de notre esprit critique et de notre jugement, au contraire, tout en nous élevant au-dessus de ce que la raison peut nous dire, les yeux de la raison sont ouverts plus que jamais. L'esprit critique est ouvert plus que jamais. Et c'est pour ça que vous trouvez l'usage de cet esprit critique dans l'Église, mais en même temps cette écoute, cette audition de ce qui est au-dessus de l'esprit critique. Car enfin, l'esprit critique empêche de dérailler, mais l'esprit critique ne nourrit pas. Vous voyez, l'esprit critique nous dit où est la nourriture, elle reconnaît, elle discerne, comme le dit saint Paul, vous voyez, si justement l'esprit qui nous soulève, eh bien la muse divine, le Saint-Esprit, ou bien si c'est un bon ange, ça c'est pas toujours facile de distinguer les deux, hein. Ça, l'ange de Yahvé et puis le Saint-Esprit, allez vous y retrouver si vous pouvez. Mais le mauvais ange, alors là, il est souverainement important de le distinguer du bon ange et du Saint-Esprit. Alors, c'est un peu ça, vous voyez, les droits de la raison critique. Et c'est pas seulement les droits de la raison critique que soutient saint Paul, c'est ce fait que le Saint-Esprit respecte la raison critique. Et alors, justement, il est beaucoup plus facile d'exercer ce respect à propos du don de prophétie qu'à propos du don de glossolalie, évidemment. Le don de glossolalie échappe quand même aux investigations, même s'il vient de Dieu, tandis que le don de prophétie n'échappe pas aux investigations. Et alors, ça nous en dit très long, parce que c'est toute une option à prendre, même au point de vue moral. La première option, c'est d'abord de désirer être inspiré. On ne va pas vivre avec la vertu, on ne vit pas avec la vertu, on ne vit pas avec les moyens du bord. On vit en étant soulevé au-dessus de soi-même par un don quotidien, permanent, qui s'appelle le pain quotidien. L'inspiration quotidienne. Dès qu'elle nous vient à manquer, c'est l'oxygène qui vient à nous être enlevé. Ça, c'est la première conclusion pratique. Nous ne devons pas accepter de vivre une vie banale. Et médiocre, au sens où je dis là. Et faites attention, une vie médiocre, au sens où je dis là, c'est pas une vie où on est médiocre, ça, il est entendu qu'on sera médiocre, et toujours médiocre. Mais justement, on se sentira beaucoup plus médiocre si on est en proie au souffle de l'esprit que si on est en proie à rien du tout. Parce que si on est en proie au souffle de l'esprit, on sentira bien douloureusement, et de plus en plus douloureusement, la résistance qu'on lui oppose, l'inertie, la pesanteur et la grâce, comme dit Simone Veil. On sentira ce conflit d'une manière très déchirante, très, très douloureuse, et on se sentira médiocre. Oh là là, oui, alors faites-moi confiance. Mais ça ne s'appelle pas vivre médiocrement, ça. C'est même la seule façon de ne pas vivre médiocrement. Parce que si justement le souffle ne nous visite pas, eh ben on pourra se regarder, ma foi, avec un esprit modeste, sans doute, mais enfin qui n'interdira pas quelques satisfactions. Vous voyez, on ne connaîtra pas cette grande détresse de se sentir lourd par rapport à l'air chaud. Vous savez qu'il doit faire voler les planeurs. Si vous ne cherchez pas l'air chaud, bon, vous aurez une Bugatti, ça ira, ça roule bien. Hein. Vous n'aurez pas la nostalgie de voler, de vous envoler. Si au contraire vous essayez de capter les courants toute votre vie, le courant, le seul courant, le Saint-Esprit, qui va vous faire vous envoler, vous allez voir que le Saint-Esprit, vous allez le sentir, Saint-Esprit, il va dire, moi je peux pas, votre poids de pousser, c'est trop lourd. Hein? Alors, vous allez commencer à savoir ce que ça veut dire que d'être médiocre, mais de la bonne manière, qui n'est pas de mener une vie médiocre, qui est de gémir, d'opposer notre médiocrité à l'ascension du Saint-Esprit. Alors ça, c'est le premier point. Première résolution pratique. Rechercher les dons spirituels. Oui. Ça, j'ai pas de gros, moi, vous savez, on demande pas tant. Ben, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Et contre le sang de Christ qui a donné son sang pour vous donner l'Esprit. Et pas avec mesure. Et croyez-moi, si nous avions tous été fidèles au Saint-Esprit depuis que nous le connaissons, ben, l'Église n'en serait peut-être pas où elle en est. Il faut un ferment pour lever la pâte. Hein? Bon. Ben, nous sommes tous un peu responsables, chacun à notre place. Bon, deuxièmement. Alors, justement, nous devons savoir que dans la terre chrétienne, parce que Dieu respecte sa créature et la raison, et que la raison n'est pas méprisable et qu'il lui a donné pour s'en servir, et justement comme un garde-fou et comme un instrument de discernement entre le bon esprit et le mauvais, vous n'avez jamais le droit de mépriser, de négliger, de faire fi de l'esprit critique, et de l'esprit critique du vôtre et des autres, sous prétexte que vous vous mettez sous la motion de l'esprit. Alors ça, non, c'est pas chrétien, c'est l'autre grand danger. Et c'est l'autre grand danger dont le danger des rationalistes se sert, vous comprenez? Avec tous ces illuminés qui ont déraillé dans toute l'histoire de l'Église depuis le début, ils ont facile de dire, ouh, méfiez-vous de ces trucs-là. Vous comprenez? Thérèse d'Avila déjà avait affaire à des gens qui se méfiaient de leur raison, parce que on déraille si facilement quand on se met à faire raison. Ben évidemment, on déraille, bien sûr. On déraille si justement on n'a pas l'humilité de se soumettre à la raison tout en dépassant la raison. C'est pas facile. C'est pas facile parce que ça paraît un peu scandaleux que Saint Paul dit bien, il dit, celui qui parle en langue, c'est le pneumate. C'est donc ce qu'il y a de plus profond et de plus divin dans notre âme. Mais il dit, non, ça ne suffit pas. Il faut se soumettre à ce que dit le nous, c'est-à-dire la partie un peu plus rationnelle et critique. Et vous voyez, tout le mystère de l'Église enseignante, c'est ça. Et dans le fait que pour être concret, pour être avec les jeunes, pour être dans le vent, les docteurs actuels envoient si allègrement promener tout ce qui est logique, tout ce qui est esprit critique, eh bien le résultat, c'est la pagaille noire dans laquelle on est, chacun baptisant inspiration ce qui lui plaît, et naturellement le démon en profitant largement pour en penser bien s'il va se priver, hein, il aurait tort. Alors retenez bien cet équilibre de l'Église. Évidemment, les dogmes, ça ne signifie rien si ça doit être comme si c'est une prison, si ce n'est que ce sont des couloirs, on ne se nourrit pas avec des couloirs, on ne se nourrit pas avec des flèches, des poteaux indicateurs. Ça, les flèches et les poteaux indicateurs, c'est fait pour aller dans la salle du festin, et c'est dans la salle du festin qu'on se nourrit avec la folie de Dieu, avec l'esprit qui nous enlève bien au-dessus de tous les couloirs et de toutes les flèches. Une fois qu'on est arrivé, ah oui, au fur et à mesure qu'on arrive, comme dit Saint Jean de la Croix, là où il n'y a plus de route, on n'a plus besoin de route. Évidemment. Mais tant qu'on n'est pas arrivé, il vaut mieux pas se tromper de route. Ceci dit, c'est pas avec des routes qu'on va manger. La théologie, ça nourrit pas. Alors vouloir faire des doctrines nourrissantes, mais c'est du délire. La doctrine ne nourrit pas. La parole de Dieu nourrit parce que justement elle est vivante et acérée comme un glaive à deux tranchants. Parce qu'elle est justement le Saint-Esprit lui-même qui passe à travers une parole humaine. Alors là, oui. Mais la doctrine théologique ne nourrit pas, la doctrine théologique balise et vous dit attention, et vous c'est du feu rouge ou du feu vert, et quelquefois du feu orange. Mais le propre du feu orange, c'est d'être instable, n'est-ce pas? Et c'est de se tourner toujours plus ou moins vers le vert ou vers le rouge. Mais toute la doctrine revient à ça. Et tout le discernement des esprits dont Paul parle, mais c'est ça. Alors, il dit aux Corinthiens, si vous étiez, parce qu'il les attrape pas mal, hein, si vous étiez vraiment sous le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de division entre vous. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça irait tout droit. Se dégage aussi de ce chapitre le point suivant. La plus grande lumière surnaturelle, c'est celle qui permet de juger. Par conséquent, si quelqu'un entend des voix comme Jeanne d'Arc, ou à des apparitions comme Marguerite Marie, ou comme Thérèse d'Avila, ou comme le Padre Pio, tout ce que vous voudrez. Si quelqu'un a des choses comme ça, ce ne sont pas des lumières non négligeables. Ce ne sont pas des lumières négligeables. Hein? Bien. On peut dire que À supposer que l'Église approuve, ou que ce soit le confesseur ou le théologien de service ou l'évêque et qui disent « oui, ça va, c'est bien, c'est dans la ligne », bon, ben on dira « oh, Thérèse d'Avila, comme elle est favorisée de Dieu, comme elle est... oh, c'est merveilleux d'être illuminée comme ça, on voudrait bien ». Oui, eh bien non. Je veux dire par là que la lumière la plus élevée et la plus profonde, c'est justement celle qui permet de juger de la qualité et de la signification en sagesse des lumières et des apparitions que reçoit Thérèse d'Avila, par exemple. Dans le cas de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc a reçu à la fois le don de recevoir, d'entendre des voix, et le don de les interpréter, de les comprendre et d'en juger. Elle a reçu tout cela, et c'est cela la grande lumière de Jeanne d'Arc. C'est le jugement qui lui a été donné, le jugement surnaturel. Mais si justement l'Église avait été capable d'exercer, elle l'a peut-être exercé un peu au début, à Poitiers, quand elle s'est faite examiner par les théologiens, enfin, vers la fin, ça n'était plus ça. À Rouen, il fallait qu'elle se débrouille toute seule, n'est-ce pas ? Mais si l'Église avait été capable d'exercer cela, normalement, Jeanne d'Arc aurait dû soumettre les lumières qu'elle recevait au jugement, mettons d'un théologien, mettons d'un évêque, mettons de quelqu'un qui est autorisé, qui est plus qu'autorisé, qui reçoit presque officiellement le charisme du discernement des esprits, lequel est le plus élevé au point de vue de la lumière. Alors évidemment, si ceux qui reçoivent un pouvoir pareil, qui est formidable, qui est terrible, s'en détournent, le négligent, le laissent s'enfuir dans la terre, le laissent se délaver comme le sel qui perd sa saveur, ou même s'ils deviennent inspirés du démon comme ils l'étaient, ceux qui faisaient face à Jeanne d'Arc, alors évidemment, il y a une corruption terriblement grave, et l'intéressée est obligée de se débrouiller toute seule. Mais, normalement, ne vous imaginez pas que les apparitions, les lumières, les inspirations soient la plus grande lumière. La plus grande lumière, c'est le jugement. Et c'est la plus grande lumière, même contemplative. Bon. Alors ça, c'est une remarque que je voulais vous faire, et ça se dégage de ce que dit Saint Paul, ici. N'est-ce pas ? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est ça que ça veut dire, parce qu'il juge. C'est ça. Il a une lumière pour juger. Et la lumière par laquelle on juge ce que nous confie quelqu'un est plus importante que la lumière qui nous est confiée. À condition que, justement, on juge en vertu d'une lumière surnaturelle. À moins que ce dernier l'interprète, vous voyez ? N'est-ce pas ? Celui qui juge de la signification et de la validité des lumières, eh bien, est plus grand que celui qui reçoit les lumières. Bon. De même, si les jeunes pouvaient comprendre ce que Platon faisait de remarquer, que celui qui pourrait savoir ce qui se passe au cours de ces séances d'ersatz de Pentecôte, qu'il recherche les malheureux, si celui qui pourrait leur dire ce que c'est qui leur arrive, eh bien s'ils pouvaient comprendre que celui-là est plus précieux et plus important que tout ce qui leur arrive, ben, ils seraient déjà en bonne voie pour en sortir, n'est-ce pas ? Mais c'est ça, ça demande l'humilité. Et toute l'affaire est là. Donc, que faire ? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, voyez ? Donc, je prierai avec la faculté qui me met hors de moi, mais je prierai aussi avec la faculté qui critique et qui juge, et qui, tout en étant soumise et écrasée par la lumière de Dieu, juge quand même que c'est la lumière de Dieu. Et c'est tout de même ça que Dieu a remis entre nos mains, c'est le pouvoir, même lorsque nous sommes écrasés par lui et complètement conscients de l'impossibilité d'assimiler sa lumière, nous avons quand même le pouvoir de juger que c'est sa lumière, et que c'est bien lui qui nous écrase. Disons, l'Église dans son ensemble a ce pouvoir, car celui qui a l'instinct de se soumettre au jugement sacerdotal de l'Église, par exemple, eh bien, il a une lumière de jugement qui lui dit « Confie-toi, juge, et sois humble et soumets-toi. » Et à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'Église qui reçoit cette lumière de juger que c'est l'Esprit de Dieu. Vous vous rendez compte, l'audace, tout de même, que des hommes puissent dire « C'est le Dieu incompréhensible qui est là. » C'est fantastique, ça. C'est ça, la grande lumière. C'est que sans savoir ce qu'est Dieu, on sache que Dieu est là. Alors d'où cette parole que Pascal avait reprise, n'est-ce pas ? Les langues servent de signes, non à ceux qui croient, mais aux infidèles. Ben oui, parce que justement, c'est une grâce du début, c'est une grâce de spectaculaire, c'est une grâce un peu de parade. Vous voyez, c'est, C'est quelque chose de grossier qui frappe l'imagination, qui frappe les sens, non seulement à cause du caractère insolite de quelqu'un qui parle avec une langue qu'il ne connaît pas, mais de l'état dans lequel se trouve celui qui est empoigné. Parce que pour dire des choses qui ne vous arrivent pas, il faut être dans un état second. Et c'est cet état second qui doit être éloquent pour les infidèles, arrêter leur attention, mais si on en reste là, si on n'a rien à leur dire, alors c'est zéro pour leur édification. Et voilà ce que veut dire saint Paul. Les langues, c'est pour arrêter l'indication des fidèles, c'est un petit peu le système publicitaire, c'est le spot lumineux, n'est-ce pas? Boum! Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut qu'il y ait quelqu'un pour lui dire. Et alors là, à ce moment-là, il devient fidèle, et c'est la prophétie qui va l'éclairer. Et alors, avec cette... Et vous voyez, l'extraordinaire profondeur de la lumière qu'il prête au prophète, n'est-ce pas? C'est que le non-initié est convaincu, à supposer que tous soient prophètes, n'est-ce pas? Comme les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, il y aura cet accord, cette unanimité qui fait tellement de bien quand on la sent, justement, que quand on sent qu'elle vient d'en haut, qu'elle ne devient pas de nous, et de nos petites combines, et de nos petits accords, et de nos petits... Donc on est d'accord, mais oh, vous avez raison, croyez-moi. Alors ça, c'est terrible, ça, quand on sent cette espèce d'arrogance humaine dans l'accord. Ça, c'est ce qui me rend malade, moi, quand je sens ça, vous savez. Bon. Ça donne de la force d'être plusieurs, mais ça peut être une très mauvaise force, puis ça peut être une bonne force. Justement, si c'est le Saint-Esprit qui nous unit, si c'est l'esprit des prophètes soumis aux prophètes, alors là, le bonhomme qui arrive là-dedans, il arrive comme dans le musée Grévin avec un miroir, il est complètement déshabillé. On voit tout, on lui dit tout. Comme ça. C'est ce qu'on ferait si nous étions un peu sous la motion de l'esprit. Hein, les secrets de son cœur sont dévoilés, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Alors, à moins de résister terriblement au Saint-Esprit, ça ne traîne pas. Il tombe sur sa face et il adore Dieu. Il dit, oui, Dieu est parmi vous. Et c'est évidemment ce qu'il faudrait, ce dont le monde d'aujourd'hui, alors quand on dit qu'il a besoin, ben oui, mais il aurait besoin de ça. Hein. Mais attention, vous voyez, avec l'esprit critique. Donc tous les dogmes, et toutes les condamnations, à qu'il soit anathème, c'est très important, parce que feu vert, feu rouge, enfin quand même. Faudrait savoir. Alors d'où les règles qu'il donne à une communauté qui était une communauté de ce type. Ces règles ne sont pas valables pour nous, parce que nous sommes de pauvres êtres qui n'avons plus d'inspiration. Ou presque plus. Alors on n'a pas besoin de ça, nous, évidemment. Mais enfin, il serait souhaitable qu'on ait besoin de nous arrêter, de nous dire, bon, attention, vous allez prendre un petit ticket, chacun son tour, parce que c'est magnifique tout ce que vous dites, mais il faut un petit peu qu'il y ait de l'ordre, de la décence, et puis le démon risque de se glisser toujours dans nos assemblées, puisque précisément parce qu'elles sont inspirées par Dieu, ça l'intéresse, tout ce qui est inspiré par Dieu. Alors méfions-nous et pratiquons la discipline de Paul, voilà. Alors là, il est 10h-10, je n'ose pas aborder les femmes à 10h-10. Je vous demande pardon, mais alors pour un sujet d'une pareille importance et d'une pareille taille et aussi épineux, vous me permettrez de reprendre des forces afin de vous mieux servir.